Très belle chanson, Mr. Bojangles, qui fait partie de la bande originale du film En attendant Bojangles, inspiré du roman du même titre. Et en studio, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Roinsart, le réalisateur du film. Bonjour Régis Roinsart.
Bonjour.
On parlait de l'interprétation, l'interprète qui est un chanteur néo-zélandais, Marlon Williams, une interprétation tout en finesse, en sensibilité. Je croyais que c'était une voix féminine.
Oui, mais c'était... en fait, on ne pouvait pas avoir les droits de la version de Nina Simone, qui est celle qui existe dans le roman,
oui.
Parce que les droits sont détenus, la majorité des droits sont détenus par la famille de Michael Jackson, et ils nous demandaient énormément d'argent, en fait. C'était genre 5% du budget du film, donc c'était impossible de le faire. Donc on s'est dit qu'on allait faire notre propre version, et... comme Nina Simone a une voix avec des tessitures masculines, je me suis dit, mais si je demandais à un homme qui a une tessiture féminine pour la chanter, j'avais découvert Marlon Williams en 2018, qui a sorti un album absolument incroyable et qui va sortir son nouvel album dans une semaine. Là.
Ah oui.
Ouais, et c'est un artiste qui est connu vraiment en Nouvelle-Zélande et qui commence à être connu là.
En dehors
de la Nouvelle-Zélande et avec qui, en fait, j'ai. On a correspondu par visio, par Zoom, au moment du confinement. C'est-à-dire que moi, je l'appelais quand il était à l'apéro, à la bière avec ses amis. Et moi, j'étais avec mon mug de café, en fait. Donc, c'était assez rigolo et on blaguait beaucoup. Et
à cause du décalage horaire.
C'est ça.
Oh, oui. Et ben c'est une belle découverte qu'on fait grâce à vous, Marlon Williams. Très, très belle voix. Et donc, vous vous êtes intéressé au roman qui a connu un succès monstre, roman d'Olivier Bourdeau, paru en quelle année?
Début 2016, je crois.
OK. Ouais. Et comment vous l'avez connu, si je puis dire, ce livre-là?
J'ai connu étrangement, c'est-à-dire que j'ai été contacté par une production qui m'a dit, voilà, on voudrait adapter ce livre, est-ce que vous pourriez le lire vite? Ils m'ont envoyé dans un fichier numérique. Et moi, j'étais en pré-production de mon second film qui s'appelle Les Traducteurs, et j'ai lu le livre, et puis que j'ai trouvé formidable. J'étais extrêmement ému, et puis j'ai aussi vu qu'il était, il avait un succès énorme en librairie, et puis des critiques absolument incroyables. Et c'est bizarre parce qu'en fait, quand il y a ça, en fait, ce genre de choses, moi, j'y allais un peu à reculons, puis j'étais sur d'autres films, d'autres projets.
Vous alliez à reculons parce que vous sentiez une pression, vous vous dites le film va être attendu par les fans des romans.
C'était une pression par rapport à moi-même, en fait, c'est-à-dire que. En plus, j'écris mes scénarios moi-même. Enfin, je veux dire, c'est les idées originales, en tout cas. Et donc, j'y allais reculons. Et puis, la société, en fait, qui m'avait contacté n'avait pas les droits du livre. Donc, j'étais un petit peu étonné.
Ouais,
parce qu'en fait, la maison d'édition organisait une sorte de concours pour gagner les droits du livre. Donc, elle m'avait contacté. Et durant une semaine, 10 productions m'ont appelé pour ça. Alors, je me suis dit, si on pense à moi pour faire ce film, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, je l'ai dit, en fait, à un jeune producteur que je connais, comme ça, dans la conversation. Et il m'a dit, écoute, Régis, je viens de lire le roman. Je suis à une terrasse de café, je suis en pleurs, c'est toi qui dois le faire. Donc, à partir de là, en fait, se sont enchaînées beaucoup de choses de réflexion. Et j'ai décidé, en fait, de, entre guillemets, participer à ce concours pour gagner les droits. Et après, c'est une très longue histoire, mais on a réussi à les obtenir. Et ça, c'était une formidable aventure.
Est-ce qu'on vous a dit pourquoi on pensait à vous à titre de réalisateur de...
Alors, je pense que c'était par rapport à Populaire, parce que c'est un film des
Populaire, un de vos...
Oui,
votre premier long métrage.
Ouais, qui se passait durant les années 50. Donc, avec beaucoup aussi à la fois de la comédie, du drame, ce genre de choses. Peut-être que c'était ça.
L'univers.
Le côté romanesque aussi des personnages. Je pense que c'est essentiellement pour ça. Mais personne n'était, en fait, en plus, c'était drôle, ne me le décrivait comme ça. C'est-à-dire, qu'on me contactait, c'est toi qui dois le faire. Donc, c'était pas parce que il n'y avait pas cette chose-là. Mais c'était fascinant. Puis après, des planètes se sont un peu alignées pour que je le fasse. Et puis on est parti à l'aventure.
Et vous l'avez tourné en quelle année?
On l'a tourné en 2020.
2020.
Voilà, c'est ça. On l'a tourné
en pleine pandémie.
Juste avant. C'est-à-dire que on a terminé le tournage 2 jours avant le lockdown en France.
Ah oui.
Ouais. Donc grande chance.
Je comprends, grande chance. Sauf que le film est sorti beaucoup plus tard.
Voilà, parce que après tous les films, comment dire, se sont retardés.
Ouais, il y avait
les
comme
uns,
un peu de
autres.
Trafic.
Il y avait beaucoup de trafic.
Un bouchon de circulation cinématographique.
C'est ça. Et donc on a attendu longtemps. Mais après juste le tournage, même si on était était en confinement, on a commencé le montage, on a fait les trois quarts du montage à distance avec mon monteur, en Zoom, avec des écrans partagés et tout.
Le travail s'est fait beaucoup en ligne, à
c'est
distance.
Ça. Et même la musique, en fait, c'est composé par Claire et Olivier Manchon, qui sont des gens qui vivent aux États-Unis, un couple franco-américain. La musique s'est faite de l'enregistrement à distance, c'est-à-dire qu'il y a à peu près une quarantaine de musiciens. Et on ne pouvait pas rentrer en studio avec 40, c'était impossible. Donc ils ont demandé aux 40 musiciens de s'enregistrer en fait chez eux avec tel matériel et tout. Et puis tous les musiciens avaient acheté le bon matériel parce qu'en plus, personne ne pouvait faire de concert à l'époque. Et donc leur musique s'est enregistrée à New York, à Los Angeles, dans le Montana, à Miami, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, partout.
On va faire un documentaire là-dessus,
mais c'était
le
fou.
Making of du
c'est
film.
C'est ça, exactement. Et c'était assez extraordinaire de faire ça.
Et vous parliez tantôt de votre film populaire qui est sorti il y a maintenant 10 ans, qui mettait en vedette Romain Duris, qu'on retrouve dans En attendant Bojangles, aux côtés de Virginie Efira, qui est fantastique, Grégory Gadebois, Solène Machado-Granet, une belle distribution des gens qui jouent juste, et parce que c'est un film qui on est sur un fil, là. On peut tomber d'un bord ou de l'autre, ça peut devenir caricatural, mais pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le film qui est sorti maintenant, qui est en salle, ou qui n'auraient pas lu le roman, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de quoi il en retourne?
Oui, c'est l'histoire, en fait, d'une famille dans les années 60, le père, la mère et leur fils de 9 ans, qui... vivent à Paris et qui font la fête tous les jours, de toutes les manières possibles, pour que, comment dire, toutes les journées soient les plus belles possibles, que la vie soit la plus incroyable. Donc, c'est leur philosophie de vie, et leur philosophie de vie les pousse même, en fait, à s'exprimer, se vouvoyer, faire des jeux de mots sans cesse et de l'humour.
S'appeler autrement, prénommer de tout sorte de prénoms.
Ils sont complètement dans l'imaginaire, et ils vivent bien parce que le petit, en fait, participe aussi à la conversation des adultes et tout ça. Et tout cela est mené par, en fait, on va dire dirigé par la mère, qui se fait appeler par plein de prénoms différents, qui est quelqu'un qui a une répartie incroyable, qui est extrêmement intelligente, mais qui est très sensible aussi. Et la folie qu'elle a, qui paraît douce, en fait, elle est beaucoup plus sombre que ça. Mm-hmm. Et à un moment, en fait, ses actes vont même être un petit peu dangereux, et la famille va s'en rendre compte. Et ils vont essayer par tous les moyens, en fait, de garder la poésie qu'ils ont dans cette famille et cette folie douce, mais
la fantaisie plutôt que la maladie.
Exactement, parce qu'elle est malade, oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le livre et votre film?
Alors, c'est assez drôle parce que tout le monde nous dit « qu'est-ce que vous êtes fidèle au roman, c'est génial, merci » et tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup de compliments des lecteurs du livre, donc ça, c'est vraiment génial. L'autre chose qui est assez drôle, c'est que avec mon co-scénariste, on se dit mais c'est fou parce que en fait finalement, il y a plein de choses qui sont très très différentes, des choses en plus qui sont retirées, des choses qui n'existaient pas dans le roman. Dont d'ailleurs Olivier Bourdeau dit ah je suis jaloux, j'aurais dû faire cette séquence tout ça.
Comme quelle séquence par exemple
Je ne sais plus. Vous savez pourquoi je ne sais plus? Parce que en fait j'ai tellement, avec mon co-scénariste, on a tellement essayé de s'approprier le roman, que je ne sais plus ce qu'on a écrit.
Plus la part des choses.
Plus,
là.
Pas du tout. Ouais. Et Olivier Bourdeau est venu 3 fois sur le tournage pour voir, et je l'ai invité. Et à chaque fois j'allais le voir, je lui dis mais Olivier, c'est toi qui as écrit ça ou c'est nous?
Confusion.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. On était là-dedans parce que c'était très puissant. Mais ce que je voulais absolument retrouver du roman, c'était l'émotion en fait qui m'avait donné, c'est-à-dire une espèce de grand huit, de roller coaster en fait, d'émotion, du rire, des larmes, de toutes ces choses-là. Et je crois que c'est pour ça que les lecteurs aiment le film, parce que en fait ils ressentent la même émotion de leur lecture.
Et vous parlez tantôt de fantaisie, on ne vit pas comme son voisin. En tout cas, cette famille-là est vraiment à part. Il y a des moments extrêmement loufoques, il y a des scènes loufoques. Est-ce que ça représentait un défi en termes d'adaptation? Est-ce que vous avez eu peur que ce soit aussi difficile pour le public de comprendre la proposition?
Alors, non, ça, je ne me suis pas posé la question de savoir, en fait, si... on va dire cette famille, elle est adoptée, ou du moins sa loufoquerie. Parce que je me suis juste en fait posé la question en tant que spectateur, comment en fait moi j'avais envie de les montrer, comment j'avais envie de les voir. Je suis mon premier spectateur de tout ça. Donc par exemple les fêtes qui sont dans le film, bah, j'ai essayé de les rendre les plus vivantes et les plus vraies possibles, comme si en fait on était nous-mêmes plongés dans une fête. Donc c'est presque tourné à hauteur d'un des participants de cette fête, j'inclus en fait tout le monde. Et donc je me suis dit, bah, voilà, les gens vont les adopter ou pas les adopter, vont avoir aussi l'ouverture d'esprit de les aimer ou de ne pas les aimer. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont imparfaits et c'est ça qui est chouette parce qu'on montre beaucoup de héros dans les films ou plutôt des méchants. Mais moi, j'avais envie de faire des gens voilà, qui sont remplis de vie. Qui sont remplis d'amour et mais qui sont comme nous imparfaits.
Et comment vous avez fait le choix de la distribution pour incarner justement ces personnages imparfaits?
Ben j'ai pris d'abord des j'ai pas voulu choisir d'abord le rôle féminin ou le rôle masculin. Je me suis dit qu'il fallait que je fonde un couple
Ouais.
véritablement. Donc j'ai pensé à des gens, j'ai fait comme des photographies mentales et
Ça prenait une chimie.
à un moment je me suis dit waouh, Virginie Efira et Romain Duris, ça pourrait être un couple merveilleux de cinéma qu'on n'a jamais vu en plus. Ça pourrait vraiment fonctionner entre eux, aussi bien leur voix, aussi bien leur corps, aussi bien tout ça. Et donc j'ai envoyé le scénario à eux deux en même temps. Chacun savait que l'autre le lisait et ils ont accepté en fait d'interpréter leur rôle en tout cas.
Et ça marche.
Je crois.
Ouais. Et montrer la maladie mentale, parce qu'il est question de ça aussi dans le film, qu'est-ce que ça représentait pour vous comme enjeu?
C'est très difficile parce que quand j'étais petit, j'avais énormément de mal à voir les films en fait qui se passaient dans des asiles psychiatriques ou qui traitaient de la folie parce que j'en avais peur parce qu'il y a Il y a presque quand on voit des gens qui ont des problèmes mentaux, ça peut vraiment, on peut être d'un seul coup figé,
On est face à
on est
l'inconnu,
face
là.
à l'inconnu et
Ouais.
ça peut faire très peur. Et en plus, quand on est petit, il y a presque une dimension un peu fantastique. Je suis resté un peu sur cette espèce d'image et j'ai mis énormément de temps, mais vraiment très tard, à voir des films parce que peut-être que j'avais peur de ma propre folie en me disant, waouh, peut-être que moi je pourrais devenir comme ça un jour. Mes parents pourraient avoir ce genre d'acte et en fait je refusais de le voir et tout. Et puis un jour, en fait, il y a un producteur, mais pour toute autre chose, qui m'a dit, en voyant mon travail et tout ça, au tout début que je commençais à réaliser, il m'a dit, Régis, n'aie pas peur d'être fou. Et ça a tout débloqué en fait chez moi. J'ai plus peur de rien. Donc j'ai traité la folie de manière totalement subjective. C'est-à-dire, je me renseigne. J'ai d'habitude en fait quand je fais un film de me renseigner de tout ce que je peux, mais pas non plus trop parce que après d'un seul coup on va dans le documentaire, on va dans des expériences en fait qui sont écrites par des gens. Moi, je voulais avoir mon propre ressenti, comme si en fait j'étais moi-même face à ces personnages, cette famille, et en particulier le personnage qu'interprète Virginie, en me disant comment je réagirais. C'est pour ça que même la position de caméra, elle est là. C'est comme si on était témoin de ça. Et comment on est figé par rapport à comment on fait par rapport à des crises, en fait.
À un moment donné, c'est ça
Ça
bascule et
bascule.
il y a un malaise.
Ouais, c'est ça. Et on
Ouais.
voit justement l'espèce d'amour, de courage qu'a le personnage de son mari, Romain, et comment il y va. Et c'est encore plus beau, en fait, d'avoir cette position-là, un peu en recul, que d'être dans la subjectivité totale, en fait, du personnage de Romain, dans laquelle on ne sera jamais, ni en fait dans la tête de Virginie, enfin du personnage de Virginie, de la folie, parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'avais envie d'avoir cette position-là, et finalement, on est un peu comme dans, enfin même bien souvent pour le coup dans le roman, on est en tout cas dans le regard de l'enfant, à la fois nos peurs et puis parfois en fait un enfant se ressaisit
C'est votre
et comprend mieux.
décision à titre de réalisateur.
Ouais.
OK. Et en terminant, quel message vous voulez véhiculer? Je sais pas s'il y a un message dans votre film.
En fait, quand je fais un film, je théorise absolument rien parce que sinon, d'un seul coup, à ce moment-là, on écrit un essai. On ne fait pas raconte pas une histoire. Mmh. Donc quand j'écris, quand je réalise, pour moi c'est comme une expérience aussi, une expérience de vie. J'ai appris en écrivant beaucoup de choses sur la folie, comme vous dites, mais aussi sur la parentalité. Je suis moi-même papa. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont énormément touché. Donc, je dirais que on m'a fait une réflexion. Quelqu'un avait vu, mais je viens de New York juste avant. Il y avait un Q&A dans la salle et quelqu'un qui avait vu mes trois films m'avait dit il y a quelque chose qui rassemble en fait vos
un
films.
Un Q&A.
C'est questions et réponses.
Okay.
Questions and answers, quelque chose
comme
ça.
Oui, answer, oui.
Voilà. Et donc, il me dit, c'est la liberté qui rassemble. Et je pense que c'est ça, c'est ce qui me touche, en fait, c'est la notion de liberté. Comment cette famille vit et essaye d'être toujours libre.
Oui, la liberté commence là où...
C'est ça.
Je sais pas c'est quoi le...
Moi non plus, je suis pas très proverbe.
Oui, parce qu'à un moment donné, la liberté peut empiéter
c'est
celle
ça.
De l'autre.
Exactement.
Ouais, et c'est ce qui arrive aussi.
Oui, complètement. Ouais. Mais c'est aussi, c'est de, justement, de pas être manichéen, de pas être totalement rose, totalement mm-hmm. noir, mais d'essayer de voir en fait ce qui est la vie.
Oui. Et l'espèce de montagne de lettres à l'intérieur de leur appartement, là, ça nous incite à ne pas... plus payer nos comptes.
Non, c'est ça. ça raconte ça. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, c'est très d'actualité. On va dire, c'est des gens qui payent rien, pas leurs factures, rien du tout.
Parce toutes, les responsabilités du quotidien, ça les pèse.
C'est ça.
Ouais.
Mais je crois qu'en fait, c'est aussi un peu maintenant, il y a un moment, peut-être qu'aussi avec la pandémie, on s'est rendu compte de plein de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer ses impôts, hein, bien au contraire, mais parce que c'est nécessaire à la vie et tout. Mais
On vit en société après tout.
Ouais. Mais il y a des moments où voilà, il faut aussi se poser des questions de comment on gagne notre liberté, notre libre arbitre.
Oui, c'est vrai que ça pose ce genre de questions. Mmh. Alors, il faut voir en attendant Bojangles. Mmh. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios, Régis Ouinsard. Et puis, sur quoi vous travaillez là, pour la suite des choses? Un court-métrage, un long-métrage?
Je suis en train d'écrire deux longs-métrages. Voilà, j'en écris deux et on verra lequel va gagner, lequel dont... qui a l'histoire en fait dont je vais tomber le plus amoureux.
Des sujets encore traités.
Différents de Bojangles, c'est différent des deux premiers films que j'ai fait. Donc pour l'instant j'en parle pas trop, mais en tout cas ce sont des genres que j'ai pas encore abordés.
Bon, alors bienvenue au Québec. Est-ce que ça fait un petit bout de temps que vous êtes arrivé?
Je suis arrivé avant-hier.
Ouais,
j'ai réussi à un petit peu me balader, me perdre en fait dans les rues, particulièrement en fait du vieux Montréal. Et voilà, je suis rentré dans des églises, je me suis perdu.
Vous avez fait un peu le touriste.
Ouais, j'ai fait le touriste, mais en même temps, j'aime bien, comment dire, parfois rentrer dans une ruelle, aller dans
vous perdre un peu.
Me perdre et puis sentir les choses. Et puis hier, en fait, il y a eu le débat, le Q&A.
Questions-réponses.
Aux questions-réponses, au beau bien.
Oui,
plein de gens.
Cinéma beau bien.
Ouais, c'était rempli, c'était super, donc... J'ai pu parler avec les gens et puis il y a mes deux distributrices de TVA que j'adore, alors que je les connais à peine, mais qui étaient formidables. Et il y avait aussi cette comédienne qui s'appelle Danielle, qui joue la mère de
Danielle Fichaud.
Danielle Fichaud.
La mère de Céline Dion.
La mère de Céline Dion.
Elle était là.
Elle était là parce que je l'ai rencontrée, j'étais membre d'un jury qui était du festival de films canadiens à Dieppe, en Normandie. Je l'ai rencontrée, on est devenus amis et j'adore cette femme aussi bien en tant qu'actrice que voilà, elle me fait tellement rire, elle me donne le sourire, elle est extraordinaire.
Oui, une belle nature, une personnalité authentique.
Complètement.
Régis Ouinsard, merci encore.
Merci
puis bon succès, à la prochaine. Bon séjour ici.
OK, au revoir.